Pop-opien, et tous les autres aussi, bonjour. Les promesses, c'est comme les cerises. Il y a une saison pour ça, et comme vous l'aurez peut-être remarqué, cette saison-là, plutôt quinquennale qu'annuelle, elle s'est ouverte il y a déjà quelques semaines et elle va durer jusqu'en avril. C'est un spectacle comme un autre d'ailleurs, dont certes, la répétition cyclique peut finir par émousser l'intérêt des plus volontaires, mais enfin bon, c'est un spectacle vivant. Et comme le disait si justement le feu président Chirac, les promesses n'engagent que ceux qui les reçoivent. Par exemple, en ce qui me concerne, en dehors de la promesse de l'aube, de mon bien-être, mais Romain Gary, j'ai plutôt tendance à être très sélectif vis-à-vis de celles que je reçois. Et ce n'est pas le très beau film dont nous allons parler avec Reda Kateb, et justement baptisé Les Promesses, qui risque de me faire changer d'avis. Quant à Reda Kateb, qui lui tient toujours les siennes, de promesses, une fois de plus, il casse la baraque, et moi la promesse de tenir une heure en compagnie de Reda, je m'engage à la tenir pas plus tard que tout de suite. Pop, 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 c'est parti.
France Inter. Pop, pop, pop. Antoine de Gaulle.
Bonjour Reda.
Bonjour Antoine.
Bonjour et bienvenue dans Pop Pop Pop. On vient d'apprendre la très triste nouvelle de la disparition accidentelle de Gaspard Ulliel, doublement césarisé, d'abord en 2005 au titre d'Espoir, puis 12 ans plus tard comme meilleur acteur. Un jeune acteur dont la promesse d'une longue et riche carrière vient d'être brutalement fauchée sur une piste de ski. Au-delà du drame humain qui nous afflige tous, est-ce qu'un acteur se sent un peu plus étroitement touché quand un autre acteur disparaît, Reda ? Comme si un membre de la famille, même lointain, venait de perdre la vie.
Oui, c'est vrai. En tout cas, c'est des moments où fait sens ce mot de la famille du cinéma, la grande famille du cinéma, dont on a une expression un peu galvaudée ou qui peut avoir ses limites. Mais dans ces moments-là, oui, c'est comme un semblable, c'est comme un frère qui disparaît. Et je pense très fort à sa famille, évidemment. On n'a jamais joué ensemble, mais j'ai eu l'occasion une fois de dîner avec lui. C'était quelqu'un vraiment d'extrêmement curieux, de délicieux, et c'est vraiment tragique que la vie l'emporte, la mort l'emporte tellement rapidement, tellement jeune.
Une pensée émue donc pour Gaspard et les siens. Vous venez nous parler aujourd'hui, Reda, du film de Thomas Kruithof, Les Promesses, dans lequel vous jouez avec Isabelle Huppert et qui sort le 26 janvier. Mais Reda, nous allons aussi parler de vous, si vous le voulez bien, et de cinéma, de poésie et de musique, car c'est loin qu'on puisse faire avec un chevalier de l'ordre des arts et des lettres. Au fait, est-ce que je dois vous appeler monsieur le chevalier ?
Ah, si vous voulez, hein, ouais. vous pouvez, si ça vous plaît, vous pouvez le faire, ça me dérange pas. Ouais.
Monsieur le chevalier, quel genre de dragon le chevalier que vous êtes a-t-il eu à vaincre pour être fait adouber?
Il y a toujours des dragons derrière les dragons.
Oh là, attendez. C'est une très belle formule.
Oui, mais ça n'est pas qu'une formule. Le premier des dragons, c'est soi déjà. Mm-hmm. Et on n'a jamais fini de jouer avec lui et de parfois lutter aussi avec lui.
Ouais. Et de jouer avec le feu, puisqu'on parle de dragons.
Absolument.
On pourrait pousser la métaphore assez loin. Bon, chevalier, peut-être pas, mais on vous a vu interpréter des rôles de médecin, de prisonnier, de musicien, de vice-consul, et maintenant de DIRCAB, directeur de cabinet, mais enfin DIRCAB, comme on dit, dans Les Promesses. Si vous n'aviez pas été acteur, Reda, qu'auriez-vous voulu être, chevalier ?
Chevalier, certainement. Tout premier, je voulais être pilote de péniche de course.
Il y a des péniches de course.
Mais il y en avait pas, mais bon voilà, ce métier malheureusement justement n'a pas été inventé dans ma jeunesse. Et après, non, assez rapidement, je voulais être avocat. Je me souviens, et ça, c'était quelque chose qui m'avait tenu un petit moment. Le seul problème, c'est qu'il fallait faire des études de droit. Mais par contre, je crois qu'il y a quelque chose de commun entre l'avocat et l'acteur, finalement, de défendre ces personnages et de les défendre finalement quels qu'ils soient, quoi. Que ce soit des gentils, des méchants, des gens qui font des choses terribles ou héroïques, quoi.
Certainement, et si vous le voulez bien, j'y reviendrai un peu plus tard dans cette émission sur le parallèle entre l'avocat et l'acteur. Mais c'est quoi ça, ces courses de péniche ? Qu'est-ce que vous me racontez là ?
Alors je crois que c'est vraiment un souvenir de petite enfance où sur la scène un jour j'avais vu une espèce de course de offshore. Ouais. Ça, c'était peut-être pas des offshore hein, ouais. Puisque voilà c'est peut-être c'était amplifié
pas des,
par.
C'était pas des péniches non plus.
Si. Non mais pour moi à l'époque tout ce qui voguait sur la scène était une péniche donc même si elle faisait 2,50 m c'était une péniche. Voilà. C'est des mots d'enfant en tout cas. Ouais.
Vous n'aviez pas d'amis portugais, c'était juste vraiment des péniches.
J'avais beaucoup d'amis portugais, je salue d'ailleurs tous les portugais qui nous écoutent.
Et tous les péniches. Alors on va parler évidemment du film Les Promesses et de votre parcours. Mais avant cela, je vous propose d'écouter ensemble Slide. C'est un morceau de Sopico dont le clip a été tourné sur la plus haute tour de Seine-Saint-Denis, la tour Pleyel. Ce qui me fait penser à votre film justement.
Mon gars, va pourquoi tu trembles, pourquoi tu tends, tu tiens plus droit. Je dois capter des gens dans la soirée, écrit sur mon emploi du temps. Tu te poses des questions dans les toilettes, tu te poses des questions devant moi comme les douaniers. Swipe un salaire de 4 sur le poignet. Le respect se perd, il a canné. Yeah. Je suis très calme en général de guerre. Toute la journée ou très tard, je sais. Mon bébé, si je prends millions de liasses, je deviens direct plus mignon, je yasse. C'est pas cool de leur souhaiter la mort. S'ils continuent comme ça, mon frérot dit qu'ils vivront de moi. Un peu moins en fonction de ce qu'ils diront de moi. Je prends la vie par le chignon, je maille. Je prends la vie par les vœux, je joue la taille. Je préfère la défense ou l'attaque. Dans les deux cas, je sors les canons. La concurrence est morte sous la table. Je suis en avance de 2 ans sur l'heure de dame. Si j'ai le mort, je vais laisser qu'une odeur de cadavre. T'as juré sur l'honneur de ta race. T'as perdu, je suis dans le cœur de ta maman. Si t'as, je fais du beurre ou un meurtre d'habillal. Ça se passe clairement à fond quand c'est pas moi qui rappe. Viens, on ride la moto d'Akira. J't'ai servi le meilleur plat d'Ita Takimas. Pourquoi tu t'es pris pour c'est pas quoi? Y'aura personne pour sauver ta poire. Si vous faites pas le truc correctement, cette vie vous baisse très très fort et vous laisse à poil. Tu vois ce que je veux dire? Ah, ok, ça, ça. Ok, tu vois ce que je veux dire? Non, ok, ça, ça. Ok, tu vois ce que je veux dire? Non, ok, ça, ça. Ok, tu vois ce que je veux dire? Non, ok, ça, ça. Ok, tu vois ce que je veux dire? Si t'es ici ou là, moi je suis là-bas. J'suis sur le galion, va te noyer sur la barque. Tout l'amour est sur madame. On a fait ce qu'il fallait pour fuir la dalle. Si t'es ici ou là, moi je suis là-bas. J'suis sur le galion, va te noyer sur la barque. Tout l'amour est sur madame. On a fait ce qu'il fallait pour fuir la dalle. Y'a des gens qui sont costauds de nez, sans autres qui disent qu'ici y'a trop de mets. Sans, je vois le verre à moitié plein, je le dé. Sans, je vais augmenter le ratio de mes chances. Enfoiré, t'es pas libre parce que ton banquier te fait des sourires quand t'es à des coups. Vert, je suis le chaud, mon fils, sortez les poux. Belle, je suis la preuve, vous prêt à la découpe. Celle qui m'a vu naître a pas d'a priori. Je suis dans le cabriolet, j'écoute Cabrioli. Dans mon secteur, les nambos sont pas bioniques. Il a perdu son âme quand il a dit all-in. Je suis la fusion Nirvana et Wu. J'ai dit voilà mais où t'es. Je me suis battu contre Raman et Hugo. Aucune diff entre une droite et une gauche. Marie a du boucan, t'es pas ready. Elle a gobé, élargi sa rétine. Pour un X ou un Wico, ça rétine. Les petits sont très du père, c'est pas internet qui ira les éduquer. J'ai ramassé du pèse, mais j'ai laissé du terre. Je joue un solo, je vais goûter du texte. Je m'inscris au main event, t'es dégoûté du père. Ma guitare, c'est un fusil, un RPG. J'ai pris un Uzi au RDV. Préviens des cousines, ramène toutes tes fesses. Mon album va déclencher la haine des frères. Ma guitare, c'est un fusil, un RPG. J'ai pris un Uzi au RDV. Préviens des cousines, ramène tes fesses. Mon album va déclencher la haine des frères.
Slide, slide, c'est un morceau de Sopico avec notre invité Reda Kateb. Reda, avant de parler des Promesses, le film de Thomas Kruithof qui sort en salle le 26 janvier, parlons un peu de vous si vous voulez bien. Vous venez d'une famille où le verbe et la scène sont en héritage, puisque vous êtes le petit-neveu de l'immense écrivain Kateb Yassine, et que votre père, Malek Edine Kateb, est le cofondateur du Théâtre National Algérien. Et votre nom, Kateb, signifie écrire en arabe. Est-ce que vous ne seriez pas la démonstration même de ce qu'on appelle le déterminisme?
Si j'étais écrivain, je le serais.
J'utilisais le verbe.
Oui, mais je, pour le coup, du côté de l'incarnation, du côté des mots des autres, même si voilà, j'écris de temps en temps des choses et que je suis en ce moment dans un chantier d'écriture d'un long métrage, d'un scénario. Mais en tout cas, oui, c'est sûr que c'est pas extrêmement original de par mes ancêtres. Mais je dirais que plus que quelque chose de s'inscrire dans une lignée ou de presque un rapport un peu aristocratique à ça, c'est plus le bain dans lequel j'ai été plongé et enfant et le désir finalement d'avoir une vie un peu plus pop, un peu plus sympa que ce que je pouvais voir autour, quoi.
Mais la route a été sinueuse avant de trouver le couloir de nage qui vous attendait. Vous avez exaucé bien des métiers avant de pouvoir vivre de votre art: télémarketing, animation de fêtes pour enfants, manutention. Est-ce que ces différentes vies avant la vie d'acteur ont contribué à construire cette impression que vous dégagez aujourd'hui de calme, voire de sagesse, et aussi les choix cinématographiques absolument sans faute que vous avez fait jusqu'à maintenant? Cette distance, c'est comme si vous aviez un...
Oui. En tout cas, le calme et la sagesse, franchement, bon, c'est pas toujours le cas, et je me définis pas. Ouais, en tout cas, je me définis pas du tout comme ça. Mais en revanche, j'ai jamais donné plus d'importance à ce qu'on peut faire en tant qu'acteur ou artistiquement qu'à la vie. Et finalement, tous ces petits boulots dont vous parliez, que je vivais assez durement sur le moment parce que je savais pas si j'en sortirais, mais je le vois aujourd'hui, je le ressens aujourd'hui un peu comme mon conservatoire, c'est-à-dire de croiser finalement plein de gens, plein de sortes d'humanité dans des boulots qu'on fait un peu pour survivre, et je crois que tout ça reste avec moi aujourd'hui quand je joue dans des films avec ce qu'on appelle des non-professionnels, des gens qui sont auxquels je dois donner le change. Et qui eux
comme
m'envoient
leur
réalité.
Comme c'est le cas dans Les Promesses, une nouvelle
comme
fois.
C'est le cas dans ce film-là, et je me rends compte que ça revient assez souvent. Et c'est vrai que, enfin voilà, moi, cette notion de professionnel et non professionnel, je ne sais pas vraiment ce que ça veut dire, si ce n'est que je gagne ma vie avec mon métier.
Ouais.
Et c'est une chose que j'adore, de jouer avec des gens, comment dirais-je, au diapason du vrai, duquel je dois être, quoi.
Oui.
Voilà.
Mais alors, quand je parle de calme et de sagesse, ne vous y méprenez pas, c'est qu'il émane de vous quelque chose de, comment dire, vous êtes là. Vous êtes là. Vous avez une présence. Vous avez une puissance dans votre présence que je retrouve moi dans tous vos rôles.
Ben je merci.
Ben non, mais c'est pas forcément un compliment d'ailleurs. C'est un constat.
Ah, je croyais que ça l'était. Moi.
Bon allez, bon, c'est un compliment aussi.
Non, mais je sais pas. Évidemment, c'est pas des choses sur lesquelles on travaille. C'est pas des choses sur lesquelles dont on peut être conscient ou qu'on développe, qu'on construit. Moi, ce que j'essaye de faire et ce que me permet aussi le privilège que j'ai de faire ce métier d'acteur, c'est de vivre au plus près du présent en fait, et d'avoir un minimum d'agenda dans la tête, de plans, de penser à quelques coups d'avance plus tard. Finalement, quand on tourne un film ou quand on est sur une scène de théâtre, en tout cas qu'on est là pour raconter une histoire, on a cette chance de pouvoir retrouver quelque chose de l'ordre de l'instant. Et donc c'est peut-être ça qu'on appelle la présence. Je sais que les animaux, par exemple, si vous jouez avec un animal sur une scène, il va prendre toute la présence. Et un enfant également. Et le feu aussi. Et ce qui rassemble, alors le feu, franchement, je développerai pas, mais en tout cas l'enfant et l'animal, c'est cette chose de ne pas avoir de plan, de pas d'être au plus proche de l'instant, quoi.
C'est-à-dire que le rôle d'un pompier enfant au milieu d'un incendie et à cheval, ça peut vous tenter, ça.
Ouais, franchement, comme ça, en tout cas, c'est très alléchant.
Parlez de toutes vos expériences avant de devenir acteur, enfin professionnel, avec les nuances que vous mettez sur le terme. Mais vous avez par exemple animé des fêtes pour enfants. Ça vous avait d'ailleurs inspiré votre court-métrage Pichoun, sélectionné à la quinzaine des réalisateurs à Cannes. Ça vous a jamais donné envie de rejouer un cow-boy?
J'adorerais jouer un cow-boy, mais pour le coup, un vrai cow-boy.
Ah bah, c'était un vrai cow-boy.
Un beau costume. Oui, alors là, c'était un cow-boy, je dirais, en mode survie. un cow-boy de survie dans des appartements avec parfois 20, 25 petits monstres adorables.
Très présents.
Et très présents. Et puis des parents plutôt absents qui buvaient du champagne dans la cuisine pendant que j'essayais de survivre. Mais j'ai aussi des très beaux souvenirs de ces moments-là. Je pense aussi que ça a été encore une fois un truc un peu de l'ordre de ma formation, de mon conservatoire. Survivre avec 25 gamins pendant 3 heures qui vous donnent parfois des coups de pied dans les tibias, etc. Je vous assure que quand on vient vous chercher dans une belle voiture pour vous amener en loge maquillage sur un plateau de cinéma, ça reste avec vous, quoi.
Deux mots juste pour finir. On parlait de Pichoun, ce court-métrage que vous avez réalisé il y a quelques années maintenant. Vous disiez que vous étiez sur le projet d'un long-métrage que vous écrivez en ce moment.
Oui.
Le rire médecin, c'est ça? Mes informations sont bonnes?
Oui, alors le titre n'est pas définitif, mais en tout cas, oui, c'est un film que je coécris avec Fadette Drouard, qui avait coécrit Passion avec Grand Corps Malade et d'autres films. Et elle m'aide vraiment à développer cette histoire. C'est un film, je dirais, sur une histoire de résilience, l'histoire d'une danseuse acrobate qui va se blesser et qui donc va être dépourvue de ses moyens physiques et qui ne va plus pouvoir faire ses acrobaties aériennes et qui, un peu faute de mieux au début, va devenir clown à l'hôpital, va rentrer dans cette association pour gagner un peu sa vie, pour faire des cachets. Et qui va se révéler dans cet écrin, sur ce champ de bataille des clowns à l'hôpital. J'ai pu les suivre, j'ai fait des immersions avec l'association Le Rire Médecin, dont je suis maintenant parrain, et j'ai très vite senti que je voulais raconter une histoire qui se passait dans ce monde-là, quoi. Ouais.
Bon, retour au présent avec ce film Les Promesses dont nous allons parler avec Charline Roux qui va nous rejoindre dans un instant et de voir comment vous avez abordé le personnage de Yazid, le dire-cab d'Isabelle Huppert. Je vous propose d'écouter d'abord ensemble Yay, c'est un morceau de Mac Miller.
When will we die? This life isn't fair. I miss the high. I live a lie. We'll die, no one will care. Take me inside, I'll meet you there.
Mac Miller, Reda Kateb, voici que vient d'arriver parmi nous Charline Roux. Charline qui m'a promis de nous raconter Les Promesses, le film de Thomas Kruithof dont vous partagez l'affiche avec Isabelle Huppert. Charline, j'espère que ce n'était pas une promesse de Normand. Enfin de Normand.
Non, il y a peu de chance Antoine, je vous le confirme.
Charline, je vous présente Reda Kateb. Voulez-vous bien nous dire de quelle promesse parle ce film, s'il vous plaît?
De celle que Clémence, maire d'une ville du 93, fait à ses administrés, et particulièrement à ceux du quartier des Bernardins, dont les immeubles insalubres et pourris par les marchands de sommeil constituent un véritable danger pour leurs locataires exténués et de fait imperméables à toute promesse de mieux vivre. Mais Clémence est convaincante, sauf qu'elle est approchée pour devenir ministre, ce qui la fait vaciller, ambition ou promesse, tel est le dilemme.
Merci Charline, bande annonce.
On me propose d'être ministre.
T'hésites?
Je vais me faire broyer.
Ça m'aiderait de comprendre un peu comment ça fonctionne dans ta tête.
Finalement, je te croyais différente des autres, mais t'es prête à vendre père et mère pour quelques miettes de pouvoir.
Ça fait 12 ans que je la vois se bagarrer pour les Bernardins comme si l'avenir de l'humanité en dépendait. Je te demande juste de lui faire confiance un peu.
Les plans, ça fait 20 ans que j'en vois passer. L'État trouvera toujours une bonne raison pour ne rien faire.
Je les prends sur qui, les millions?
Mais vous faites comme vous voulez, vous vous démerdez, je m'en fous de votre cuisine.
On cherche des personnalités, pas des pirates de la politique.
Reda Kateb, vous êtes donc le dire-cab de Clémence. C'est pas un métier, c'est un sacerdoce, parfois décisionnaire, parfois presque nourrice, nanny, membre de la famille. Est-ce que c'est aussi en ces termes que Thomas Kruithof vous l'a présenté?
Pas tant que ça comme un sacerdoce. C'est marrant, votre réflexion, ça me rappelle une réplique dans un film d'un autre Thomas qui s'appelait Hippocrate, de Thomas Lelty, où à un moment je disais, être médecin, c'est pas un métier, c'est une malédiction.
Pareil pour un dire-cab.
À certains moments, je pense, mais pas seulement. C'est aussi un véritable engagement, quoi. Et des gens, enfin moi, pour ceux que j'ai pu rencontrer, donc pendant la préparation du film et encore maintenant, lors des rencontres qu'on fait sur la promo, c'est des personnes qui sont finalement à cette frontière entre des professionnels de la communication et en même temps les politiques. Ils ne sont pas eux-mêmes élus. Ils sont totalement dévoués à la personne dont ils sont directeurs de cabinet. Et en même temps, ils ne sont pas que conseillers, c'est-à-dire qu'ils doivent aussi gérer des dossiers, recevoir des gens. La question du logement est vraiment très très importante dans ce rôle. Et il y a plein de sortes de dire cap. Mais en général, il paraît qu'ils restent pas extrêmement longtemps parce que le boulot est tellement épuisant.
Reda, je parlais en ouverture d'un film qui ne saurait mieux tomber qu'en cette époque, où les promesses pleuvent tellement fort qu'il faudrait un parapluie en Kevlar pour se protéger. Vous aussi, vous êtes sensible au timing de la sortie du film?
Vous voulez dire au moment de la campagne électorale?
Une période politique agitée.
Oui. Je suis sensible à l'idée de sortir un film comme celui-là, qui montre effectivement des personnages politiques qui sont pas tout roses, qui sont pas tout blancs, mais qui sont pas tout pourris, comme on peut parfois l'entendre et de plus en plus, qui sont finalement dans cette chose de la politique locale qui est plus travaillée pour des gens que pour une idéologie. Et un film qui finalement met un peu sur la table du débat, j'espère en tout cas, si on en parle et plus on en parle, la question de la politique de la ville et des personnes qui vivent dans des lieux insalubres et la question du logement. Parce que quand on aborde les banlieues, il est très rare qu'on l'aborde pas par le mode de la délinquance, de l'insécurité. Et très peu finalement par la dignité des gens, le soin et le besoin d'avoir un environnement de vie qui permet de bien vivre, quoi, tout simplement.
C'est un film qui parle du courage en politique et votre personnage n'en manque pas. Il est très intéressant parce qu'il connaît parfaitement les rouages du système auquel il appartient, tout en restant idéologiquement, en tout cas, extrêmement pur, je trouve. Est-ce que c'est compliqué de trouver cet équilibre ? Est-ce que dans le film politique, le manichéisme, c'est pas l'ennemi, justement ?
En tout cas, pour un acteur, le manichéisme, ça peut être l'ennemi, oui, pour raconter une histoire. Ce que j'aime dans ce personnage, même si il porte en lui quelque chose d'héroïque et que cette chose va prendre de l'ampleur et va monter en puissance au fil du film, il y a quand même certains moments dans le film où qui sont un peu des salissures sur le portrait, quoi. Enfin, notamment, je me souviens d'une scène où mon personnage Yazid est derrière son bureau avec un beau stylo Montblanc et il se permet d'humilier un gamin qui veut juste partir en colonie et obtenir un peu de sous pour ça. Et il y rajoute, quoi, dans la manière. Il en rajoute dans la manière. Et je trouve que du coup, ça permet de faire que ce personnage ne soit pas que un chevalier, justement.
Ouais. Et Reda Kateb, vous disiez très justement il y a quelques instants, on est très loin d'une vision réductrice et simpliste du fameux tous pourris de la politique. On y voit au contraire, certes, quelques requins entre deux eaux, mais aussi des personnages dont l'engagement auprès de leurs administrés est absolument sincère et total. C'est une question d'échelle, à votre avis? Localement, la politique est plus humaine?
Je crois que pour le coup, les promesses des politiques, quand ils les font au niveau local, sont sans cesse confrontées au réel et aux gens qui les abordent dans la rue. D'ailleurs, il y a des gens qui votent pour des maires d'une certaine obédience politique et qui vont voter autrement au présidentiel ou aux élections nationales, législatives et autres. Donc, je crois que c'est très différent. Et moi, vraiment, à titre personnel, j'ai plus de confiance pour les élus locaux que pour les autres, j'avoue.
C'est Jean-Baptiste Delafont, le co-créateur de Baron Noir, qui co-signe le scénario de ce film. Baron Noir, une série visionnaire et donc un scénariste dont l'acuité n'est plus à prouver. Qu'est-ce que vous avez appris de la somme d'infos qu'il avait glanée sur les rapports entre les maires et le secteur associatif, justement?
J'ai découvert déjà le rôle de directeur de cabinet. J'ai découvert... C'est vrai que notre histoire, au-delà de ces deux personnages et... de l'enjeu de ce thriller politique local d'obtenir une subvention pour rénover une cité, pour réhabiliter un quartier. Il y a aussi une espèce d'exploration des différents rouages qui peuvent amener à une telle décision, et notamment le gestionnaire de l'immeuble, le syndicat, les habitants, les marchands de sommeil, l'appareil du parti autour de la mer, etc. Je crois que j'ai tout découvert, parce que pour le coup, j'étais jamais rentré là-dedans, et c'est ce que permet parfois de tourner des films, de s'immerger et de découvrir d'autres réalités.
Reda Kateb, Les promesses de Thomas Kruithof, promis, on va continuer à en parler dans un instant, mais je vois que l'heure tourne, il est presque 16h30, et pardon, mais c'est l'heure des Pop News.
Dans la collection Capricci Stories, outre le formidable petit livre consacré à Nicolas Cage, on trouve aussi un autre formidable petit livre intitulé « Maintenant, je sais ». Enfin, ou plutôt...
« Maintenant, je sais ».
Son auteur, Sébastien Jiménez, propose de découvrir l'homme derrière la vedette Jean Gabin à l'occasion d'un voyage en 15 étapes, de Rouge Garance à Tout fini par des chansons, en passant par Aux grands hommes, La Patrie. Et comme je sais, Reda Kateb, que vous n'êtes pas insensible au charme de cet acteur qui n'aimait rien tant qu'à se taire, le livre est pour vous. Jean Gabin, Maintenant je sais, de Sébastien Jiménez, c'est édité par Capricci Stories.
Merci beaucoup.
Merci. Et un best-of pour les Tindersticks, les rockers de Nottingham, après 40 ans d'exercice, ce n'est que justice. À l'occasion de cette sortie, c'est que collaborateurs de longue date de Claire Denis ont dévoilé un inédit qui figurera d'ailleurs sur le prochain film de cette dernière, avec amour et acharnement. Et ce tout nouveau titre, c'est Both Sides of the Blade.
And yeah. It slipped right through. And I threw.
Both Sides of the Blade, c'est à retrouver sur Past Imperfect, The Best of Tindersticks 92-21, qui sortira en mars.
Un nouveau film de Patrice Lecomte, ça s'annonce, et surtout quand son sujet est celui-ci.
La victime non identifiée, le sexe féminin. On relève 5 plaies par arme blanche. Les coups ont été donnés de manière désordonnée à bout portant.
Qui est chargé de l'enquête ?
Négret, brigade criminelle, 36 quai des Orfèvres. Quelqu'un a voulu faire disparaître cette jeune fille inconnue. Mais elle a forcément laissé des traces, là, quelque part.
Comment vous faites pour qu'ils parlent, vos suspects ?
Rien. Je les écoute.
Maigret par Patrice Lecomte avec Depardieu dans le rôle. Titre, ce sera le 23 février dans les salles.
France Inter. Pop.
Oui, je sais.
Maigret ? Ah non, c'était Jean Gabin.
Mais pardon, oui,
je ne savais pas.
Jean
c'était moi.
Non,
je sais pas. Ah, pas mal. Elle est bien l'imitation.
Et Gabin, il a joué Maigret d'ailleurs.
Ouais.
Dans un des Maigret.
Ouais. Faites-moi un petit je sais, Reda.
Maintenant, je sais.
Ouais. Pas mal. Bon, Reda Kateb, revenons, si vous le voulez bien, aux Promesses, ce film de Thomas Kruithof, qui sort donc le 26 janvier, et dans lequel vous jouez notamment aux côtés d'Isabelle Huppert. Alors, j'ai été particulièrement impressionné par le fait que l'intrigue du film repose sur des engrenages de politique locale et nationale, ce qui en soi n'est pas folichon, mais se révèle aussi passionnant qu'un thriller. Est-ce que ça vous a donné envie de vous engager en politique ?
Non, enfin en tout cas il y a pas d'avant et d'après le tournage de ce film dans mon rapport à l'engagement et je préfère m'engager sur des choses plutôt sur le mode associatif. Après je sais pas à partir de quel moment lorsqu'on a la parole et qu'on peut dire ce qu'on pense et qu'on peut avoir la chance comme aujourd'hui de parler à beaucoup de monde, à quel moment est-ce qu'on s'engage en politique, mais en tout cas je m'engage pas aux côtés de responsables politiques ou de personnes qui souhaitent accéder aux responsabilités quoi.
Dans un de vos films précédents, Hors Normes, vous étiez de l'autre côté, pas dans le clan politique mais dans le milieu associatif, justement ceux à qui on fait des promesses. Est-ce que vous avez réussi à établir des ponts entre ces deux mondes ou entre ces deux films?
Je pense oui, sur une chose qui est celle de l'engagement justement. Mmh. Ouais, de personnages qui sont totalement engagés dans une mission qui sont pas a priori des missions extrêmement héroïques vues de loin, en tout cas qui font pas énormément parler, qui ne sont pas des choses qui de loin paraissent exceptionnelles et qui pourtant le sont. Et effectivement, je crois que ces deux personnages là sont un peu des s'ils ont une valeur héroïque, c'est une valeur héroïque de l'ombre quoi. Mmh. Et ça me plaît bien.
Les Promesses, c'est un film extrêmement dialogué. Est-ce que vous avez trouvé Yazid par son verbe, qui est parfois très technique, ou par son histoire?
Les deux.
Les deux, mon général.
Les deux, mon général. Non, je me suis vite rendu compte que Et je l'avais pas tant que ça anticipé à la lecture du scénario. Je me suis vraiment rendu compte assez rapidement en tournant, dès le premier jour de tournage, qu'on était vraiment dans un film où ça dialoguait, quoi, où ça parlait, et où effectivement l'action est celle du verbe, quoi. Et c'est d'ailleurs, je me souviens que une des toutes premières scènes, c'était dans une réunion du Grand Paris, donc dans des lieux qui sont extrêmement aseptisés. On se croirait presque dans un vaisseau spatial, un peu en lévitation au-dessus du monde, quoi.
Hors sol.
Oui, et hors sol, absolument. Où des personnes en costume cravate s'envoient des espèces de missiles emballés de politesse et de courtoisie. Et j'ai ressenti physiquement, puisque moi, l'endroit où je suis quand je suis sur un plateau, c'est de vivre les choses physiquement. J'ai ressenti physiquement l'étouffement de ça, l'apnée de ça et la violence de ça. Et je me suis dit, mais c'est beaucoup plus violent qu'une embrouille de rue entre des voyous qui s'insultent, quoi. Là, il y a quelque chose de l'ordre de l'étouffement, ouais.
Vous jouez donc avec Isabelle Huppert, absolument parfaite, hein, dans le rôle de cette mairesse qui oscille entre engagement et ambition personnelle. Est-ce que vous aviez tous les deux la même approche du jeu?
Isabelle.
Ouais, Isabelle et vous.
J'étais hyper heureux de jouer aux côtés d'une actrice comme Isabelle Huppert. Lorsque j'ai lu le scénario, je savais que c'était elle qui jouait Clémence et j'avais son visage, sa voix en tête en lisant le scénario. Oui, je crois que d'une certaine manière, on a des approches communes qui sont pas régler nos coups entre les prises. Genre, ah, tu feras ça et moi je ferai ça, mais plutôt de parler d'autres choses quand on discute entre nous, et puis ensuite d'enchaîner des prises et de laisser de laisser parler le plateau, quoi.
Ouais.
Après, oui, je crois que moi, je pour retrouver le moment présent, de prise en prise, j'ai besoin de petits accidents, de petites maladresses, de choses plus imprécises parfois. Et Isabelle
est d'une précision
chirurgicale. Mais incroyable. Ouais. Oui, il y a quelque chose de l'ordre des arts martiaux, quoi, vraiment chez elle. Et en même temps, ce que j'ai adoré, c'est qu'elle accueillait aussi ma manière de faire, les changements de rythme que je pouvais donner. Donc j'ai eu l'impression que l'un et l'autre, pour jouer ce couple, ce tandem, on faisait un pas l'un vers l'autre dans nos manières de travailler aussi.
Le film a été tourné à Clichy-sous-Bois, et vous le disiez, vous avez eu à jouer des scènes de porte à porte, souvent face à des comédiens non professionnels. Est-ce que ça aide à rester dans le rôle d'un personnage en campagne, justement? Est-ce que les gens que vous avez eu à convaincre, eh ben, fallait vraiment les convaincre pour de vrai?
Certainement, ouais. Pour certains. En même temps, pour d'autres, j'avais juste à me contenter de donner le change. Et pour beaucoup, c'était des vrais habitants, donc de cette cité des Bernardins dont on parle dans le film. C'était au Chêne Pointu à Clichy-sous-Bois. Et il y avait des personnes que je pouvais plus arrêter. C'est-à-dire que je les lançais avec une question et non, mais la mairie, ça fait des années que vous nous promettez. Et donc il fallait les écouter. Et jouer, c'est souvent écouter, quoi. Moi, en tout cas, c'est quelque chose que j'aime.
C'est un personnage très dense et complexe, hein, que vous avez créé avec Yazid, puisqu'il est à la fois admirateur d'Obama, pas dénué d'ambition lui-même, et pourtant visiblement attaché à sa ville et à sa cité. Est-ce que c'est un tiraillement qui vous a servi pour le personnage? Vous en avez parlé avec Thomas Kruithof?
Oui, on a échangé un petit peu là-dessus avant le tournage. Moi, je crois que c'est à nouveau en tournant le film, en le vivant, que j'ai réalisé certaines choses. Notamment ces scènes qu'on a tournées dans ces cités. Je me suis rendu compte que le fait de les tourner au début du tournage et de tourner un peu plus loin les scènes de bureau, etc., ça chargeait quelque chose en moi. Effectivement, j'ai pas vécu dans des cités aussi dégradées que celle-là, loin de là, mais c'est un monde que je connais un peu et d'où je viens. J'ai réalisé aussi que j'y vivais plus aujourd'hui.
Vous avez un petit jardin.
Absolument. en termes de tiraillement, et ce que j'aime aussi, et ce que je trouve extrêmement contemporain chez ce personnage de Yazid, c'est que finalement, il culpabilise pas, d'une certaine manière. Il ne culpabilise pas de sa réussite, il ne culpabilise pas de ses ambitions. Et il articule d'une certaine manière ambition et dévouement de manière décomplexée.
Ouais.
Et ça, je trouve qu'il y a quelque chose d'aujourd'hui.
Extrêmement moderne.
Ouais, que c'est finalement l'étape d'après, parce que, enfin, c'est des discussions que je peux avoir souvent avec des amis qui, comme moi, sont un peu des transfuges sociales, quoi. Mmh. Enfin, voilà, on a accédé à des choses et c'était pas gagné. Et parfois, on peut traîner une forme de culpabilité de ça, ou de syndrome de l'imposture. Mmh. Et je trouve que ce personnage-là s'en débarrasse pas mal et qu'on a besoin de ça aujourd'hui, quoi, d'une certaine manière.
Il y a une autre figure de Dirkab dans le film, un Dirkab qui lui officie à l'Élysée, qui est incarné par l'impeccable Stéphane Crépon, une version plus froide, plus technocrate, plus impitoyable. Vous n'avez pas de scène commune, mais est-ce qu'il peut être envisagé comme le futur de Yazid s'il était plongé dans le grand bain élyséen ?
Alors, c'est une bonne question. Et la fin du film est ouverte d'une certaine manière, mais je crois que, pour les personnes qui verront le film, je pense que à la fin du film, ce personnage de Yazid, soit il arrêtera la politique et il arrêtera d'être Dirkab et il travaillera dans autre chose dans lequel il sera certainement brillant, talentueux et où ça marchera bien, soit il deviendra effectivement un homme politique. Et à certains moments, j'ai considéré le parcours du personnage dans ce film comme s'il préparait son prologue politique. De la même manière que... C'est intéressant de voir, en fait, chez un personnage, qui est-ce qu'il admire, qui est son idole. Chez Django, c'était Clark Gable, par exemple. Pourquoi ? Enfin bon. Chez Yazid, qui aime tant Obama et qui s'identifie dans le parcours d'Obama, qui a fait ses premières armes dans les quartiers difficiles de Chicago. Ouais. Peut-être qu'il est en train de construire sa mythologie d'homme politique. Mais ça, on le sait pas. Même moi, je le sais pas.
C'est un film passionnant et vous l'aurez compris avec plein de niveaux, plein de couches superposées. Enfin, c'est pas un film qui se laisse lire comme ça à la première vision. C'est un film extrêmement riche et complexe. Que ces promesses de Thomas Kruithof, avec vous, mon cher Reda Kateb, et Isabelle Huppert, et le monsieur Crépon dont nous parlions à l'instant, et
entre autres.
Nedra Hayadi, Sophia Algara, Jean-Paul Bord, et tant d'autres.
Bon, les promesses, c'est sur les écrans le 26 janvier, si mes informations sont bonnes. D'accord ? Qu'est-ce qu'on va faire maintenant ?
Ouais, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on va faire dans la suite de Pop-Pop-Pop ?
Qu'est-ce qu'on va faire dans la suite de Pop-Pop-Pop ? Tiens, quelques sons.
Man is Mecha.
Oh, sir.
You're a pot dealer. What's that like?
Voilà, on va écouter un peu tout ça du Hot 8 Brass Band, de la Familia Grande de Camille Kouchner, du film La Loi de Téhéran. On parlera aussi de High Maintenance et de pop culture et tout ça. Ce sera juste après Jukebox Baby. C'est un morceau d'Alan Vega.
Came from nowhere to St. Francis Street. Jukebox baby, I played a little bit. Cadillac came, watch for the heat. Jukebox baby, jukebox baby. Says my name. Jukebox baby, playing a strange game. Blind trumpet player, looking for fame. Jukebox baby, jukebox baby, jukebox baby, jukebox baby, jukebox baby, jukebox baby. Oh, jukebox baby, playing Johnny Rep. Oh, hotshot gambler, looking for play. Oh, jukebox baby, jukebox baby, jukebox baby, jukebox baby, jukebox baby, jukebox baby.
St. Francis Street, Electron Wall. Jukebop baby, playing number four. Avenging angel, defeating the poor.
Pardon. Vous écoutez Pop Pop Pop, l'émission de pop culture de France Inter, ou plutôt l'émission qui traite la culture de façon... Ça, c'est Wanna Be Starting Something de Michael Jackson, et c'est ce qui vous évoque immédiatement la pop culture, mon cher Reda Kateb. Et pourquoi donc ce morceau-là spécifiquement, s'il vous plaît ?
C'est celui du roi de la pop.
King of Pop.
Ouais, Mamako, c'est quand même... c'est une manière de s'inscrire dans l'histoire de la musique, musique noire, de la musique tout court, et tout d'un coup d'inventer quelque chose, quoi. Mm-hmm. Que ce soit dans le son et dans la musique, dans la danse. Et,
non, je ne conteste absolument pas ce choix, oui.
Il a quand même un peu volé le Sol Makossa de Manu Dibango dans ce morceau.
Ah, il l'a emprunté, mais ouais. C'est marrant tout de suite. Mais
il n'a pas rendu derrière.
Ça s'appelle des samples. Bon, allez, allons-en ensemble.
Ça a été donné avec grand plaisir, Manu
allons
Dibango.
Allons ensemble dans le royaume de la pop culture. C'est l'heure de votre pop liste, Reda. Nous vous avons demandé de choisir un livre, un film, une musique, une série. Votre livre du moment, c'est La Familia Grande de Camille Kouchner, paru au Seuil il y a un an. C'est un livre dans lequel la fille de Bernard Kouchner et d'Evelyne Pisier rompt un silence très pesant, Charline.
Une grande famille dans laquelle on rit, on reçoit, on débat, mais une grande famille dans laquelle l'un des enfants est victime de son beau-père. Un livre qui décrit les mécanismes de l'inceste et du silence qui l'entoure.
Reda, auriez-vous la gentillesse de nous en lire quelques lignes, puisque je vois que vous avez le livre avec vous?
Avec plaisir. Quand j'étais petite, ma mère m'incitait à l'appeler par son prénom, Evelyne. Evelyne, André, Thérèse, Antoinette, tu te rends compte, André? Je la regardais rire, je guettais ses sourires, je traquais son regard. Je l'aimais tellement. Plus fort que tous, si intelligente, mon Evelyne était aussi la plus douce. Ses toutes petites mains tachées de soleil, le creux de son cou où j'aimais poser mon front. Elle disait que l'important, c'était de se parler, que tout s'expliquait, que la télévision était une fenêtre sur le monde, la liberté, la valeur suprême. J'avais le droit de tout faire tant que j'étais responsable. Et j'étais responsable si je tentais de comprendre. Comprendre tout, tous et tout le temps.
Merci Reda Kateb. Pourquoi avez-vous choisi La Familia Grande D?
Parce que c'est le dernier livre que j'ai lu et qui m'a vraiment beaucoup touché. C'est un livre que j'ai lu en deux jours. Dès que j'ai commencé à cette lecture, je pouvais plus m'arrêter jusqu'à la fin. Je trouve que derrière la rupture de ce silence concernant ce frère jumeau abusé et les conséquences que ça a pu avoir et la manière dont ça a ramené aussi ces questions-là sur le débat, il y a un récit totalement sincère, une manière de décrire d'abord cette famille si lumineuse, si chaleureuse, ça ne rend la suite que plus violente, que plus touchante. Et derrière les intentions, il y a quelque chose qui s'impose par sa vérité, en fait.
Ouais. Bien, passons à votre film du moment, Reda Kateb, et c'est un thriller iranien, La Loi de Téhéran, sorti en 2019, réalisé par Saïd Roustaï et accueilli par une standing ovation à la Mostra de Venise. Charline, quelle est-elle, cette Loi de Téhéran?
Celle qui condamne à la peine de mort toute personne détentrice de drogue, quelle que soit la quantité. De fait, les narcotrafiquants jouent et vendent gros. Samad, un flic aux méthodes musclées, met enfin la main sur le parrain de la drogue Naserka, alors qu'il pensait la faire classer. La confrontation avec le cerveau du réseau va prendre une toute autre tournure.
هر چی ازت میپرسم اگر درست جواب ندی خودتو زنت میرین زندان بچه‌هات هم یه راست بهسیستن.
من اسمخان.
ناصر.
ناصره؟
خاکزاد.
Une bande-annonce en persan, donc en farsi, que je vous traduirai volontiers. Malheureusement, je n'ai pas le temps, mais je vous laisse en revanche le temps de me répondre sur le choix de ce film.
Vous me laissiez le temps de traduire.
Si vous voulez.
Peut-être plus tard. Mais non, j'ai trouvé ce film extrêmement immersif, ouais. Extrêmement évidemment
génial,
bien réalisé, génial, bien joué. Ouais. J'ai énormément d'admiration sur la manière dont les Iraniens, dont c'est un réalisateur comme celui-là, arrive à contourner la censure et les difficultés de s'exprimer dans son pays, parce que derrière l'histoire de flics, de dealers et de voyous, etc., il y a aussi une forme de mise en lumière de l'absurde du système judiciaire iranien. D'ailleurs, le film s'appelle La Loi de Téhéran. Et je trouve que c'est très fort. Voilà, c'est un film que j'ai vraiment beaucoup aimé.
Et je vous rejoins sur ce terrain-là. Courez, précipitez-vous voir la Loi de Téhéran, un film absolument dément. Votre série du moment, Reda, c'est High Maintenance. C'est une série HBO créée par Katia Blitchfield et Ben Sinclair, qui interprète également le rôle-titre. Que s'agit-il de maintenir exactement, Charlie?
Ce sont les aventures d'un dealer new-yorkais qui assure ses livraisons chez des clients tous plus zinzins les uns que les autres.
Ça. You're a pot dealer. What's that like?
I just kind of bike around and people call me and then I bring them weed. You want some, I got some. Get high, let's have
some. Sometimes you just put on headphones and you're walking around the city. It's like you're in a movie. It's awesome. Whoa!
We're all moving if Trump wins. But I don't want to move. Now.
Oh là là, mais dites-moi, Reda, mais il y a encore question de drogue là-dedans. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est une série de confinement, ça?
Absolument. Ouais. Exactement. Ouais, c'est une série que j'ai commencé à découvrir pendant le premier confinement. Et je précise que c'est un doux dealer, puisqu'il n'est question que de végétal.
Ouais. C'est disponible sur OCS en France.
Non, mais au-delà de ça.
Au-delà de ça, en fait, c'est une série, finalement, qui se débarrasse un peu de la dictature de la narration, en fait, et du besoin du suspense, et de finir un épisode accroché par ce qui va se passer, et le prochain épisode. C'est à chaque fois des rencontres, et moi, j'ai vraiment... à la fin de ces épisodes-là, à chaque fois, alors oui, zinzin, mais touchant aussi, étonnant, tous ces personnages dans cette faune new-yorkaise, j'ai vraiment eu l'impression de les croiser, quoi, de les rencontrer un petit moment.
Alors vous qui avez eu la chance de tourner dans une série qui a extrêmement bien marché en thérapie, pour ne pas la nommer, quel plaisir est-ce que vous prenez à développer un personnage sur ce genre de format ?
Alors, en thérapie, j'avoue que c'est une expérience un peu particulière, parce que on tournait très vite, autant il y avait beaucoup de textes, autant chaque épisode était tourné en un jour et demi, dans un décor unique, donc c'est entre le cinéma, la télé, le théâtre, avec la quantité de textes et finalement le minimalisme, quoi, des effets. Mais en tout cas, ce qui est agréable pour un acteur dans une série, c'est d'avoir du temps pour développer un personnage quand il est bien écrit et de passer du temps aussi avec lui. Alors moi, jusqu'à présent, j'ai fait à chaque fois une saison. J'ai eu le plaisir de mourir à chaque fois.
Engrenage, mafiosa.
Oui, en
possession.
À chaque fois, à chaque fois, je suis mort. Mais bon, ça m'a permis de faire d'autres trucs. Ouais. J'aurais du mal à être dans une série pendant des années et des années.
Récurrent.
Sauf si c'était une série absolument géniale, quoi.
Mais Soprano, par exemple. Bon, Reda Kateb, terminons votre pop list éclectique par un morceau que vous avez choisi. C'est Fly Away du Hot 8 Brass Band. C'est un groupe de la Nouvelle-Orléans. Vous appréciez particulièrement cette musique, crois-je savoir, et notamment dans une autre série HBO qui s'appelle Tremé.
Ouais, vraiment. Et à nouveau, il est question de résilience. En fait, c'est une musique. Alors, ce morceau qu'on va peut-être écouter un petit
peu. On va écouter, bien sûr.
Super.
en entier.
Je l'ai découvert dans un documentaire de Spike Lee sur l'ouragan Katrina et les habitants et les jours qui ont suivi cette catastrophe. Et je me souviens d'un moment où cette musique apparaît et les gens sont les pieds dans l'eau avec leurs instruments dans les mains et ils font de la musique, quoi. Et je trouve que, cette image et cette musique parlent mieux que moi, je pense.
Ce morceau, je vous l'offre, Reda, c'est le Hot 8 Brass Band et c'est Fly Away.
Mmh.
Qui réchauffe. Fly Away, c'était le Hot 8 Brass Band et le choix de Red Akateb dans sa pop list aujourd'hui. Voilà, merci de finir en fanfare. Et je vous rappelle que le film dans lequel vous pouvez voir Reda, le film de Thomas Kruithof, Les Promesses avec Isabelle Huppert, sortira le 26 janvier et qu'il est recommandé avec enthousiasme par cette émission, n'est-ce pas Charlie?
C'est vrai.
Voilà,
c'était un vrai enthousiasme.
Oui,
voilà, c'est vrai.
Sobre et sincère. Merci Reda de nous avoir rendu visite.
Merci à vous.
Merci infiniment. Et merci Charline.
Mais non, merci à vous.
Et merci à toute l'équipe de Pop 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 et à Juliette Delperroux qui était à la technique aujourd'hui. Demain dans Pop Pop Pop, Edouard Baird vient nous parler de son film à lui, Adieu Paris. Mais avant demain, rendez-vous partout sur les internets 3615 Pop Pop Pop.